CJM Jazz and Blues, bonjour. La voici enfin, cette quatrième émission sur les basses que je vous avais promis depuis un moment. On a été retardé, d'abord elle n'était pas prête, ensuite il y a eu le décès de Michel Legrand, etc. Et bien voici l'émission sur le quatrième volet sur les basses, et ce sont les contrebasses. Et on commence par Bill Johnson, William Manuel Bill Johnson, né le 10 août 1872, décédé le 3 décembre 1972, à un peu plus de 100 ans, est un contrebassiste de jazz. Il fut l'un des premiers, sinon le premier, à introduire le slap sur les cordes de sa basse, après avoir cassé son archet lors d'une tournée dans les années 1910. De nombreux contrebassistes de la Nouvelle-Orléans copièrent son style de slap plus vigoureux que les pizzicato. Il fonde et dirige le premier orchestre de jazz à quitter la Nouvelle-Orléans et à tourner à travers les États-Unis dans les années 1910, le Original Creoles Orchestra. En 1914, le clarinettiste George Baquet et le trompettiste Freddie Keppard le rejoindront. Au début des années 1920, il rejoint le King Oliver Creole Jazz Band à Chicago, l'un des meilleurs ensembles de jazz de l'époque. Il enseigne à d'autres jeunes musiciens de Chicago, comme Milt Hinton, sa technique de slap sur les cordes de contrebasse. Il enregistre de nombreux disques à cette époque à Chicago. Il continue de jouer dans divers orchestres de jazz jusque dans les années 1950, parfois sous d'autres pseudonymes. Il fait également de l'import-export sur la frontière mexicaine. Son frère, Ollie Dink Johnson, a également été un musicien remarquable, et sa sœur, Anita Gonzalez, a vécu et a peut-être été mariée avec Ferdinand Jelly Roll Morton durant son séjour en Californie. Bill Johnson meurt en 1972 à New Brownfields au Texas. Et nous allons écouter Gobert Dance par Bill Johnson. Dance par Bill Johnson. Et maintenant, je vais vous parler de Steve Brown. Steve Brown, Theodore, dit Steve Brown, qui est né en janvier 1890, le 13 janvier 1890, qui est décédé le 15 septembre 1965. C'était un musicien jouant de la contrebasse et du tuba. Il a joué les deux. C'est le plus jeune frère du tromboniste John Brown. Voilà, ils ont joué ensemble au début dans un groupe de New Orleans, de la Nouvelle-Orléans. Puis ensuite, il a changé son nom en Steve. Et il est ensuite allé à Chicago en 1915, toujours avec son frère Tom. Et puis, ils ont joué dans plusieurs orchestres. En 1924, il a rejoint le John Gene Goldcake Orchestra. Il a joué avec Paul Whiteman. En 1930, il est allé s'installer à Détroit, dans le Michigan. Et il a joué là, toujours avec du traditionnel jazz band et du Dixieland jusqu'en 1950. Wellman Brown, qui était le bassiste de Duke Ellington, a dit que Brown était le plus grand de tous les contrebassistes. Et donc, nous allons écouter My Pretty Girl par Steve Brown. Pretty Girl par Steve Brown. Voilà. Et donc maintenant, on écoute Wellman Broad. Mais Wellman Broad, dont je parlais juste avant, il est né le 25 janvier 1891, décédé le 29 octobre 1966. Voilà, il a joué de la contrebasse. Son nom Braud, B-R-A-U-D, se prononce Bro, en fait. Voilà. Il est né à Saint-James, Paris, dans la Louisiane. Il est allé à la Nouvelle-Orléans. Il a joué dans Storyville. Il est ensuite allé à Chicago en 1917. En 1923, il est allé à Londres pour jouer avec le Plantation Orchestra, dans lequel il jouait de la contrebasse et du trombone. Ensuite, il est allé à New York. Il a joué avec Wilbur Sweetman, la bande, l'orchestre de Wilbur Sweetman, et ensuite il a joué avec Duke Ellington. Branford Marsalis dit de lui que c'est le premier contrebassiste à utiliser le walking bass. Qu'est-ce que c'est le walking bass? Eh bien, c'est quand la basse joue sur tous les tons. Et donc fait une espèce de contre-mélodie, un contre-chant à la basse, et voilà, et ça donne beaucoup de swing, beaucoup de force, voilà. Et donc, il a continué à jouer, il a joué en 1936 à Orleans avec Jimmy Noon, avec le Spirit of Rhythm entre 1935 et 1937. Il a joué avec d'autres groupes de New York, par exemple Kaiser Marshall, Otley Page et Sidney Bechet. Et il est retourné jouer avec Duke Ellington en 1944. En 1956, il a rejoint Kid Ory. Et puis, il a joué avec Barbara Dines Trio. Voilà. Et il est décédé à Los Angeles, en Californie. Et nous écoutons The Blues I Love to Sing par Wellman Broad. Pop Foster, George Murphy, dit Pops Foster, qui est né le 19 mai 1892 et décédé le 29 octobre 1969. Voilà, c'est un contrebassiste qui est connu par son très vigoureux slap bass playing, c'est-à-dire son slap, son façon de tirer sur les cordes. Voilà. Il est né à la Nouvelle-Orléans. Non. Il est né près de Cherokee, dans une plantation. Et il est allé ensuite en Louisiane. Et puis ensuite, sa famille est allée à la Nouvelle-Orléans. Et quand il avait à peu près 10 ans, voilà, son grand frère Willard Forster commence à jouer du banjo et de la guitare. George commence sur le violoncelle et ensuite il passe sur le string bass, c'est-à-dire la contrebasse. Il a été marié deux fois avec Bertha Forster en 1912 et Alma Forster en 1936. Il a commencé à jouer professionnellement à partir de 1907 et a travaillé avec Jacques Carré, Kid Horry, Armand Perron, King Oliver et plein d'autres. En 1921, il est allé à Saint-Louis pour jouer avec Charlie Cress, Dewill Jackson et ensuite il est ensuite allé avec rejoindre Kid Horry à Los Angeles. Il a pris le nom de Pops parce qu'il était le plus vieux des joueurs de la bande. Voilà. En 1929, il est allé à New York City. Il a joué avec Louis Russell, Louis Armstrong jusqu'en 1940. Ensuite, il a joué avec Sidney Bechet, Art Odds, Med Mesro, le quintet de Med Mesro et le septet de Med Mesro aussi jusqu'en 1945, avec Otlit Page, Sammy Price, Danny Barker et Sid Catlett. Voilà. Et dans les années 40 et jusqu'en 50, il a fait des tournées en France. Il est partout dans le monde et en particulier en France avec pas mal de tournées en France en particulier. Mais bon, il était resté basé à San Francisco et il a joué avec Earl Hines entre 1950 et 1960. Et ensuite, toujours une tournée en Europe en 1960, il est retourné à San Francisco et il est mort là-bas. On va écouter Jersey Lightning par Pop Fosters. We'll be right back. Jersey Lightning, c'était par Pop Foster. Et maintenant, on passe à Walter Page. Walter Page, 1900-1957, le jazzman américain Walter Page a joué un rôle de premier plan dans l'émancipation de la contrebasse, instrument auquel il a conféré une agilité jusqu'alors ignorée. Il fut l'une des stars du grand orchestre de Count-Basie pendant son âge d'or. Walter Sylvester Page, né le 9 février 1900 à Gallatin dans le Missouri, se produisit occasionnellement au sein de l'orchestre de Benny Moten au tout début des années 1920, avant de former à Oklahoma City en 1925 son propre orchestre, les Blue Devils, avec lequel il effectue de nombreuses tournées dans le sud-ouest des États-Unis. Walter Page se forge une solide réputation de soliste, bien qu'il ne grave qu'un seul disque, le Blue Devil Blues Squabbling, en 1929. Sa formation accueille des solistes exceptionnels, Otley Page, Williams Basie, c'est-à-dire Count Basie, Jimmy Rushing, Lester Young, Eddie Durham. À la fin des années 1931, Walter Page est contraint pour des raisons financières d'abandonner la direction du Blue Devils et il retourne chez Benny Moten où il reste jusqu'en 1933. De 1935 à 1943, Walter Page se produisit au sein de la formation de Count Basie, alors au fait de sa gloire au sein d'une extraordinaire section rythmique surnommée la All America Rhythm Section, qui comporte Freddie Green à la guitare, Joe Jones à la batterie. Walter Page est considéré comme le meilleur contrebassiste de la fin des années 30. De cette période, on retiendra comme sideman de Count Basie les disques Swinging at the Daisy Chain, 1937, On the Clock, On One O'Clock Jumping, 1937, Jumping at the Woodside, 1938, Paging the Devil avec les Kansas City Six, issus de l'orchestre de Count Basie, Dickie Dream, Lester Lips, In, en 1939, Walter Page collabore de nouveau avec Count Basie de 46 à 48 avant de se lancer dans une carrière indépendante. Il s'associera à diverses formations de swing et de Dixieland jusqu'à la fin de sa vie. Nous écoutons Farewell Blues de Walter Parpa Walter Page. Thank you. Farewell Blues, joué par Walter Page. John Kirby, 1908-1952, est un tubiste et contrebassiste et chef d'orchestre américain de jazz. Kirby naît à Baltimore le 31 décembre 1908. Abandonné très jeune, il passe une partie de son enfance dans un orphelinat. S'initie au trombone, puis à 16 ans, il s'installe à New York et il occupe différents emplois, notamment bagagiste pour la compagnie de chemin de fer Pullman, afin d'acheter un tuba à la suite du vol de son instrument. De 1928 à 1930, il joue dans la formation Bill Brown and His Brownies, puis rejoint le grand orchestre de Fletcher Anderson de 1930 à 1933. À partir de 1930, il apprend la contrebasse auprès de Wellman Bro, qu'on a écouté tout à l'heure, et de Pop Foster, qu'on a écouté aussi, continuant aussi à jouer du tuba. Puis en 1933, il choisit définitivement la contrebasse. De 1933 à 1935, Kirby joue avec le batteur Chick Webb, réintègre ensuite l'ensemble de Fletcher Anderson de 1935 à 1936, puis de 1936 à 1937, il rejoint l'orchestre de Lucky Millinder in le Mill Blues Rhythm Band. En 1937, Kirby joue durant 11 mois à l'Onyx Club, un club de jazz new-yorkais situé sur la 52e rue à Manhattan, et fonde à cette période un sextet surnommé Onyx Club Boys et qui fera sa renommée. Kirby crée le groupe avec le trompettiste Frankie Newton et Pete Brown. Avec les trompettistes, non? Ils sont remplacés quelques mois plus tard par le trompettiste Charlie Shavers, le saxophoniste Russell Prokop. Les trois autres membres du groupe sont le clarinettiste Buster Bailey, le pianiste Billy Kyle et le batteur O'Neill Spencer. Ils forment alors un grand orchestre dont les membres ne changeront pas jusqu'en 1942 et dans lequel, à partir de 1940, intervient ponctuellement la chanteuse Maxine Sullivan, qu'on a écoutée il y a quelques années, son épouse à cette période. Kirby est, dans les années 1930, l'un des contrebassistes les plus appréciés et son groupe, le John Kirby Sextet, connaît un début de popularité entre 1938 et 1942, notamment avec le morceau intitulé Undecided, composé par Shavers. À partir de 1942, le succès du groupe décroît cependant rapidement. Plusieurs changements ont lieu dans le groupe, avec le départ du batteur Spencer, qui est remplacé par Space Powell, puis plus tard par Bill Bison, tandis que le saxophoniste George Johnson remplace Prokop. Durant l'hiver 45-46, Kirby tente de redonner du souffle à son sextet en intégrant la chanteuse Sarah Vaughan. En 1946, seuls Kirby et Bailey sont les membres de l'orchestre d'origine, les trompettistes Shavers ayant choisi de quitter le groupe l'année précédente. Cette désorganisation du groupe, initialement unie et associée au déclin des big bands, conduit Kirby à démanteler le sextet cette année-là. Malgré quelques tentatives, Kirby ne parviendra pas à reformer un sextet au cours des années suivantes. Il forme un quartet en 1950 avec lequel il se produit à Carnegie Hall. Il joue ensuite avec les trompettistes Red Allen, Buck Clayton, Benny Carter. Il essaie de faire revivre son sextet, mais la maladie vient tout remettre en cause. Il meurt à 43 ans, retrouvé mort dans son appartement à Elwood le 14 juin 1952, des suites d'un diabète. Et nous allons écouter Inni Minni Minné par John Kirby. Thank you. disque, c'était John Kirby. Et on va écouter maintenant Milty Tone, comme contrebassiste, toujours, né en juin, le 23 juin 1910, décédé le 19 décembre 2000. Et c'était un contrebassiste et il a joué pas mal avec Cab Calloway. Il s'est fait appeler Sporty, il s'est fait appeler Fump, il s'est appelé il s'est appelé The Judge. Voilà. Et ben c'est tout, on l'écoute. Plucking the Bass, Milt Hinton. Plucking the Bass par Milt Hinton. Et là, nous allons écouter maintenant Slam Stewart. Le roi Elliot Slam Stewart, né le 21 septembre 1914, décédé le 10 décembre 1887, c'est un contrebassiste américain, qui a la particularité de beaucoup jouer à l'archer et de chanter simultanément une octave au-dessus, la même chose qu'il joue. Il était un violoniste dans les années 20. Voilà, il est né en Englewood, dans le New Jersey. Il a commencé à jouer la contrebasse. Il a appris ça à l'école, puis ensuite il a joué. Alors il a joué et il a surtout rencontré Slim Gaillard. Slim Gaillard, c'est un guitariste. Et ils ont fait un ensemble qui s'appelait Slim et Slam. Ils ont joué pendant de nombreuses années avec beaucoup de succès, notamment le Flat Flute Flugie, parce que Slim Gaillard était un guitariste, mais qui en plus a inventé un langage qu'il utilisait dans ses chansons, avec des mots complètement inventés. Et voilà, Fleet Foot Fuji, c'est un chant complètement inventé. Voilà. Et donc, il a fait. Sim Gaillard a fait énormément d'émissions de radio. Sam Stewart a joué avec beaucoup de monde. Par exemple, Lester Young, Fats Waller, Coleman Hawkins, Errol Garner, Art Tatum, Johnny Guarnieri, Red Norvo, Don Byas, Benny Goodman et Barry Bucket. Voilà. Il a joué aussi avec Dizzy Gillespie. Et puis voilà. Et nous l'écoutons dans un groupe qui s'appelle Play Fiddle Play par Sam Stewart. Fiddle Play, c'était par Sam Stewart. Et pour vous faire écouter la différence, il y a un autre contrebassiste qui fait ce même genre de musique en chantant, c'est le Major Holley, Major Quincy Jr. Holley dit Mule, né le 10 juillet 1924 à Detroit dans le Michigan, mort le 25 octobre 1990 à Maplewood dans le New Jersey. C'est un contrebassiste qui a travaillé, bien entendu, comme tous, le tuba au départ et le violon. Il débute à la contrebasse à la fin des années 40 avec Wardell Gray et Dexter Gordon. Il joue avec Oscar Peterson dans le cadre du JATP, Jazz à deux philharmoniques, en 1950. Il entre dans l'orchestre de Woody Herman en 1958, puis joue tour à tour avec Kenny Burrell, Coleman Hawkins, Al Cohn, Zoot Sims, Shirley Scott, Shirley Turrentine aux années 1960. Il fait un bref passage dans l'orchestre du Duke Ellington en 64 avant d'enseigner la musique au Berklee College Music de 1964 à 67. Il accompagne James Moody, Roy Eldridge, Mick Jackson, Jackie Bayard, Hélène Humes. Et puis il joue dans les années 1970 avec le New York Jazz Repertory Company, au sein duquel il se produit au Festival de Nice en 1976. Comme son modèle Slam Stewart, il double vocalement son jeu instrumental, mais là où Slam Stewart chante une octave plus haut que son instrument, Major Olé chante à la même hauteur que la contrebasse. Nous écoutons Major Step.
Thank you.
Major Olé qui jouait Major Step. Alors évidemment, c'est un mauvais exemple puisque je voulais vous faire entendre le contrebassiste qui chante et qui chante à la même octave que la contrebasse, mais là, il ne l'a pas fait parce que j'ai rajouté ce morceau au dernier moment en me disant mais ça serait bien de comparer les deux, mais voilà, donc manque de préparation sur ce morceau. Voilà, mais on reviendra sur Major Olé et Slam Stewart parce que je m'aperçois que de toute façon, il faudra quand même peut-être un tome 5 de l'histoire des basses, et peut-être 6 même. Alors bon, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Et on va terminer l'émission par Jimmy Blanton. Jimmy Blanton, qui est un contrebassiste américain, né en octobre 1918 à Chattanooga, dans le Tennessee, et mort le 30 juillet 1942 à Los Angeles, en Californie. Carrière fulgurante que celle de Jimmy Blanton, où en l'espace de seulement 2 ans, il aura révolutionné l'instrument dans le cadre de l'orchestre de Duke Ellington. Il apprend très jeune le violon avec sa mère, qui dirige un orchestre, et la théorie musicale avec son oncle. Élève du Tennessee State College, il apprend la contrebasse et fait partie de l'orchestre de l'école, puis de plusieurs orchestres locaux, dont celui de Fat Marable, qui se produit sur les Riverboat. Il abandonne ses études en 1937 et part à Saint-Louis, où il intègre le Jeter Pillars Orchestra. C'est à Saint-Louis que Duke Ellington le découvre. Il l'engage pour partager le poste de contrebassiste de son orchestre aux côtés de Billy Taylor jusqu'en février 1940, où désormais il est le seul titulaire de l'instrument. Mais Jimmy Blanton est atteint de tuberculose et doit quitter l'orchestre fin octobre 1941, remplacé par Junior Haglin. Hospitalisé à Los Angeles en fin 1941, il décède quelques mois plus tard à l'âge de 23 ans. Jimmy Blanton est le cousin de Wendell Marshall et également contrebassiste de Duke Ellington. S'engouffrant dans la voie ouverte par Milt Hinton, John Kirby et Slam Stewart, Jimmy Blanton achève de libérer la contrebasse de son rôle de simple soutien rythmique et harmonique pour en faire une voix à part entière, un instrument mélodique capable de prendre des chorus. La souplesse de son jeu tranche avec la raideur de celui de la plupart de ses prédécesseurs. Son attaque est franche, sa sonorité est chaude et ronde, et ses suiveurs sont légion. Pour n'en citer que quelques-uns, Ray Brown, Charlie Mingus, Oscar Pettiford, Scott LaFaro, sans oublier Richard Davis, possesseur depuis les années 1950 de la contrebasse de Jimmy Blanton que lui donna Wendell Marshall. Ses chorus dans Jack's Beer du 6 mars 1940 marqueront une date dans l'histoire de la contrebasse, comme le Body and Soul de Coleman Hawkins le sera pour le saxophone ténor. Et nous écoutons rapidement Peter Panther Pater par Jimmy Blanton. Thank you.
jazz sur Radio U, t'es loin d'avoir tout entendu.